France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le mardi 25 mai, bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, l'espoir d'un été serein sur le front du Covid, les modélisateurs de l'Institut Pasteur ne prévoient pas de quatrième vague avant la fin du mois d'août. Le détail, Agnès, dès le début du journal, après les autres titres.
Le château de Versailles, un vélodrome, une discothèque, tour d'horizon dans ce journal des lieux insolites où se faire vacciner. Les avions biélorusses ne peuvent plus atterrir en Europe, décision symbolique prise hier soir à Bruxelles après le coup de force du président biélorusse. Aider les agriculteurs à utiliser moins de pesticides pour diminuer les traitements des nappes phréatiques en Île-de-France. Une initiative de l'Agence de l'eau de Paris et ça marche. Et puis la sortie très attendue du premier film de Florian Zeller, The Father, avec un incroyable Anthony Hopkins.
Invité d'Inter ce matin, Léa, 7h50.
Un autre film et un très beau film sur une région en guerre depuis un siècle, le Haut-Karabakh, dans Si le vent tombe, qui sort demain, la réalisatrice franco-arménienne Nora Martirosyan filme les paysages, les habitants, les villes d'un pays qui n'est pas reconnu par la communauté internationale et c'est déchirant. On la reçoit à 7h50.
A tout à l'heure Léa, on se retrouvera à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec aujourd'hui le député de l'Essonne, président du parti Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter. Une éclaircie dans la pandémie. Pour la première fois, les chercheurs de l'Institut Pasteur, qui révisent régulièrement leurs scénarios et qui nous ont parfois prédit le pire, se montrent aujourd'hui raisonnablement optimistes. Les chiffres continuent de baisser. Moins de malades à l'hôpital. Le nombre de patients en réanimation est passé sous la barre des 3500. Un taux d'incidence moyen à 130 cas pour 100 000 habitants. Et une campagne de vaccination qui porte ses fruits. Résultat, Sophie Bécherel, les modélisateurs envisagent sérieusement un été sans quatrième vague.
Si la décrue des contaminations se poursuit et si la vaccination continue au rythme actuel, voire augmente, les modèles de l'Institut Pasteur permettent d'être raisonnablement optimistes. Les chercheurs prennent en compte la domination du variant britannique avec deux possibilités, une transmissibilité de 40% ou de 60% plus élevée. Pour la vaccination, deux standards, soit on continue au rythme de 400 000 injections par semaine, comme aujourd'hui, soit on monte à 700 000. Dans le scénario le plus optimiste, les courbes d'entrée à l'hôpital et d'occupation des réanimations baisse jusqu'en juillet, puis reste à un niveau très bas, moins de 100 entrées journalières à l'hôpital. Même en cas d'arrivée de nouveaux variants, les chercheurs ne s'attendent pas à voir la situation se détériorer avant fin août. Il va quand même falloir être attentif aux conséquences des réouvertures du 19 mai. Si elles se traduisaient par un regain rapide des contaminations, ce serait le scénario pessimiste. Il pourrait y avoir une quatrième vague estivale, sans commune mesure toutefois avec les précédentes. Comme annoncé, le taux d'immunité naturel ou vaccinal semble décisif pour expliquer cette embellie.
La vaccination aujourd'hui en France, justement, ce sont plus de 23 millions de personnes qui ont reçu au moins une première dose et près de 10 millions deux doses. L'objectif du gouvernement reste 30 millions de premières injections mi-juin. Alors les centres de vaccination se multiplient dans des lieux parfois insolites. Il est ainsi possible jusqu'à samedi de se faire vacciner sur rendez-vous au château de Versailles, à l'Orangerie plus précisément, annonce de la préfecture des Yvelines. Et Julie Pietri, ce n'est pas le seul lieu atypique pour se faire vacciner.
L'Orangerie, bâtiment majestueux en contrebas du château, n'est d'habitude ouverte que pour des visites guidées. Elle sert, l'hiver, à stocker à l'abri du froid des centaines de citronniers, orangers et autres lauriers roses. À partir d'aujourd'hui, donc, défileront sous sa voûte de 13 mètres de haut les candidats à la vaccination. Et ce n'est effectivement pas le seul site qui attire l'attention en France. À Saint-Quentin, en Yvelines, le Vélodrome, terrain de jeu de l'équipe de France de cyclisme sur piste, n'est plus réservé aux sportifs.
C'est particulier, c'est une autre ambiance, mais on s'y fait.
La vaccination se fait au milieu de la piste inclinée, un spectacle impressionnant qui ferait presque oublier aux visiteurs les raisons de sa venue. À Montcoutan, dans les Deux-Sèvres, c'est un lieu délaissé depuis le début de la crise Covid qui accueille les soignants. Une discothèque. Ici, on ne tend plus la carte bleue, mais la carte vitale. Pour aller à la rencontre des personnes âgées, isolées en milieu rural, notamment plusieurs territoires ont aussi lancé des vaccibus, souvent éphémères. C'est le cas en Corse, Saône-et-Loire ou Lot-et-Garonne.
Allez, c'est parti. Est-ce que ça va ?
Ce type d'initiative destinée à accélérer la vaccination, peut-être poussée à l'extrême à l'étranger. Un exemple, le château de Dracula en Transylvanie. Une dose égale un billet gratuit pour visiter notamment la salle des tortures, plus une attestation sur laquelle est dessinée une infirmière aux dents particulièrement aiguisées.
Julie Pietri, et la prochaine étape du déconfinement, ce sera le 9 juin avec la réouverture des salles de restaurants et de sport et l'obligation de laisser ses coordonnées sur un cahier ou via l'application Tous Anti-Covid Signal, une nouvelle fonctionnalité détaillée dans le journal de 8h.
Il est 7h05, Agnès, la riposte de l'Union européenne après le coup de force du président biélorusse.
Alexandre Loukachenko accusé d'avoir détourné un avion de ligne européen pour interpeller un opposant politique et sa compagne. Réunis hier à Bruxelles pour un sommet européen, les chefs d'État et de gouvernement des 27 ont d'abord exigé la libération immédiate de Roman Protasevich et de Sofia Sapega. Ils ont également entériné un certain nombre de mesures, notamment une forme de blocus aérien. Le détail avec Angélique Bouin à Bruxelles pour France Inter.
Sur le plan symbolique, la riposte est de taille. Les Européens isolent l'un de leurs voisins en lui fermant leur espace aérien et ils déconseillent à leur compagnie le survol de son territoire, considéré donc comme dangereux. Décision prise par ailleurs très rapidement, souligne une source européenne. On a connu en effet les 27 plus divisés quand il s'agissait de sanctionner un allié de Moscou. Sur le plan économique, les Européens annoncent de nouvelles sanctions. Ils vont d'abord allonger en juin la liste des personnes et entités déjà visées par une interdiction de séjour dans l'Union et par le gel de leurs avoirs. Il s'agit du quatrième train de mesures depuis les élections truquées d'août 2020 et cela ne suffira pas, ont-ils estimé. Ils mandatent donc Josep Borrell, leur chef de la diplomatie, pour identifier des secteurs économiques précis qui pourraient être ciblés et il a aussi sanctionné. Les principales matières exportées par la Biélorussie, ce sont des produits pétroliers et des produits chimiques comme les engrais, indique une source diplomatique. Ce sont des pistes à explorer. Bruxelles, Angélique Bouin, France Inter.
L'Union européenne qui condamne également fermement la tentative de coup de force des militaires au Mali. Le secrétaire général de l'ONU lance lui un appel au calme et demande la libération inconditionnelle du président malien et du premier ministre, arrêtés donc hier par les militaires mécontents du nouveau gouvernement. En bref, encore l'arrivée ce matin du secrétaire d'État américain à Tel Aviv pour une tournée au Proche-Orient. Anthony Blinken doit s'entretenir avec les dirigeants israéliens et palestiniens au quatrième jour d'une trêve précaire. Reportage à Gaza dans le journal de 7h30. C'est un homme qui, sous couvert d'une association humanitaire, est soupçonné d'avoir abusé d'enfants au Cambodge et au Népal. Philippe Gérard, 52 ans, comparé cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris pour agression sexuelle sur 24 jeunes garçons, des enfants âgés de 6 à 14 ans, orphelins ou vivant dans des familles très pauvres. Pendant longtemps, Ariane Grissel, son entourage n'a rien vu ou rien voulu voir.
Quand il crée son association en 2009, ce Français affirme vouloir aider à scolariser les enfants des rues. Mais 5 ans plus tard, une ONG népalaise spécialisée dans la lutte contre les pédocriminels signale aux enquêteurs le comportement suspect de cet homme que l'on voit régulièrement emmener des jeunes garçons dans une chambre d'hôtel de Katmandou. Dans la foulée, un parrain de l'association partage sur les réseaux sociaux un article de presse qui fait état de la condamnation de ce même homme en 2005 en France pour des agressions sexuelles sur mineurs. Le regard de son entourage commence alors à changer. Les témoignages à se multiplier. Noémie Saïdi-Cottier est l'avocate de l'organisation Ecpat France, partie civile dans ce dossier.
Plusieurs personnes qui vont être interrogées en marge de ce dossier et puis dans le cadre de la procédure expliquent qu'il était très proche des jeunes garçons. Les hôteliers racontent qu'ils prenaient des chambres d'hôtel et puis qu'il y avait jusqu'à 20 jeune garçon avec lui, il prenait des douches avec les enfants, il allait se baigner nu, enfin les enfants étaient nus, mais en tout cas ils se sont rendus compte que ce comportement-là n'est absolument pas adapté et que c'était à tout le moins la même chose que ce qu'on lui avait reproché et qui avait donné lieu à sa condamnation à de la prison.
Selon les enfants, l'homme, qu'ils appellent uncle, oncle, leur offre régulièrement des cadeaux, des chocolats, des vêtements, tout en leur faisant promettre de ne rien dire. Le suspect lui reconnaît une partie des faits, mais affirme ne pas avoir senti de réticence de la part des garçons, puisque, dit-il, il revenait régulièrement vers lui.
Dossier complet signé Ariane Grissel à retrouver sur franceinter.fr. L'heure du vote à l'Assemblée pour le projet de loi confiance dans la justice défendu par le garde des Sceaux. Un projet de loi qui divise la majorité et les oppositions. Éric Dupond-Moretti a appelé lui-même à ne pas opposer la justice et la police, alors que des milliers de policiers se sont assemblés mercredi dernier devant le Palais Bourbon pour réclamer des peines de prison plus lourdes en cas d'agression des forces de l'ordre. Cela s'appelle prendre le problème à la racine au sens propre comme au sens figuré. L'Agence de l'eau de Paris a obtenu le feu vert de Bruxelles pour financer à hauteur de 50 millions d'euros la conversion au bio d'agriculteurs franciliens, car moins de pollution souterraine, cela signifie moins de traitement des eaux. L'expérimentation a commencé il y a un an. Eau de Paris présente aujourd'hui un premier bilan. Reportage de Delphine Simon au sud de la Seine-et-Marne, chez un agriculteur installé au départ de l'aqueduc qui amène l'eau de la nappe phréatique vers Paris.
Là, c'est des betteraves. Vous voyez l'herbe qui pousse et tout ce qui est des herbages, c'était fait avec des produits phytosanitaires. Une fois qu'on est passé en bio, tout ça, c'est fini.
Plus de pesticides, il a fallu aussi diversifier les plantations, explique Bertrand Columeau, agriculteur à Préau.
On a introduit des lentilles, du soja qui n'existait pas avant. Je suis la quatrième génération là, sur la ferme. J'espère bien la transmettre à une cinquième, de donner des champs en bonne santé.
Il craignait la transition périlleuse pour son entreprise. Le soutien financier d'Eau de Paris, jusqu'à 450 euros l'hectare sur 5 ans, l'a convaincu.
On est des chefs d'entreprise aussi. Leur soutien, ça a aidé à faire le pas pour ne pas mettre en péril l'exploitation.
L'objectif pour Eau de Paris est double, explique Manon Zaké-Ossian, responsable de la ressource.
Là, ici, on est sur un des ouvrages de captage. Il a fallu faire des investissements à partir des années 2008-2009 dans des installations de traitement, notamment pour traiter les pesticides, pour pouvoir continuer à produire une eau de bonne qualité à Paris. Ce dispositif d'aide, il va nous permettre de ne pas investir dans de nouveaux traitements et de pouvoir faire le pari de la protection des ressources en eau. Il va permettre de diminuer les coûts de fonctionnement. Alors, on est au début de l'aqueduc.
Au bout d'un an, 45 agriculteurs ont signé. Un tiers de l'objectif à 5 ans est déjà rempli.
Delphine Simon, la sortie très attendue demain du film de Florian Zeller, The Father, adapté de sa pièce à succès. Le père avec Anthony Hopkins dans le rôle titre. Il a reçu l'Oscar du meilleur acteur. Florian Zeller, celui de la meilleure adaptation. Dans ce film, on suit les dernières semaines de la vie d'un homme atteint de la maladie d'Alzheimer. Un coup d'essai magistral. Corinne Pellissier.
Anne,
it's me.
Ah, there she is.
Your father seemed a bit confused.
Les visages, les lieux, la couleur des murs, tout est fait ici pour désorienter le spectateur, privé d'emblée de repères dans le temps ou dans l'espace. Il est, comme Anthony, le personnage principal du film, que l'on découvre à bientôt 80 ans, perdu à l'intérieur de son appartement londonien.
Everything all right?
Who are you?
Actually, it's me, Paul.
Who?
I live here.
What is this nonsense?
Distorsion des lieux, des personnages pour une plongée dans les abîmes de la vieillesse et de la maladie, aux côtés et dans la tête d'Anthony Hopkins, remarquable, une nouvelle fois récompensé d'un Oscar, 30 ans après sa prestation dans Le silence des agneaux et son rôle d'Hannibal Lecter. À la fois très juste et de tous les plans, il est évidemment la grande force du film, qui enchaîne les souvenirs et les moments de lucidité avec des sentiments plus durs, les trous de mémoire, les retours en enfance jusqu'à la perte d'autonomie. Déjà presque un classique de cinéma, 10 ans après la création sur scène de la pièce de Florian Zeller au Théâtre Héberto, l'une des plus jouées aujourd'hui dans le monde.
The Father, demain au cinéma, et à 7h50, un autre film donc, Si le vent tombe, de Nora Martirossian. La réalisatrice est l'invitée de Léa Salamé, parce que Nicolas, tous les cinémas sont sur Inter.
Et oui, merci Agnès Soubiran. Dans 3 minutes, le zoom sur le blues des clients de discothèque.